Bonjour. Merci d'être aussi nombreux. Cette foule en délire, là. N'en faites pas trop, quand même.
Nous sommes de KNP, donc on est une société basée à Nantes. On fait du développement web, donc on fait des sites internet pour des clients, majoritairement des startups ou des petites entreprises qui veulent faire des applications vraiment spécifiques. Donc on fait pas de CMS, etc. On travaille beaucoup avec Symfony, si certains connaissent. Enfin, voilà. On est créé depuis 2009 et on a près 20 personnes qui travaillent en permanence dans la boîte. Donc il y en a une dizaine à Nantes et après une autre dizaine un peu éparpillée, soit à Paris, soit moi par exemple je travaille à Caen. Et voilà,
d'autres. Il y a Berlin aussi.
Il y a Berlin aussi, moins bien que Caen du coup, mais voilà. Donc moi je m'appelle Antoine, je suis développeur du coup depuis 3 ans à KNP et voilà, je vais laisser Cécile se présenter.
Ben moi c'est Cécile du coup, je suis facilitatrice. Ça fait 6 mois que je suis chez KNP et avant j'étais coach agile. Alors je suis facilitatrice en interne chez KNP et coach agile chez nos clients en mission, ça m'arrive. Voilà. Et du coup, on n'a pas de slide, on n'a rien parce qu'on va vous raconter une histoire. On va vous raconter l'histoire d'un projet idéal chez KNP. Qu'est-ce qu'on utilise comme pratique, dans quel état d'esprit on est quand on lance un projet, quand on termine un projet, quand on développe un projet. Et puis, sur chaque phase d'un projet, on vous racontera donc l'idéal et puis on vous racontera la réalité de ce qu'on vit, de comment est-ce qu'on adapte ou pas certains principes de l'agilité. Voilà, je l'ai dit un peu...
C'est bien résumé.
C'est bien résumé. Donc c'est parti. La première chose, donc on va vraiment faire le cycle de vie d'un projet, hein, depuis l'idée qui a germé dans la tête du client jusqu'à la fois où on met en prod le site, quoi. Le client a une idée, du coup il appelle KNP parce qu'il nous connaît d'une manière ou d'une autre, soit par notre expertise Symfony, soit par notre expertise agile, enfin peu importe. Et la première entrée en fait c'est Laetitia. Laetitia c'est notre cofondatrice. Parce que KNP, si vous n'arrivez pas à retenir, vous pouvez partir d'un canapé. Ça veut dire ça. Vraiment. Ça vient du canapé rouge sur lequel Laetitia et Mathieu, qui sont mariés maintenant, ont eu l'idée de fonder cette boîte spécialisée dans Symfony, parce que Mathieu était développeur Symfony, qui kiffait ça, qui développait des bundles pour le plaisir, et puis il s'est dit, tiens, si on montait une boîte spécialisée là-dedans. Et donc, Laetitia a repris le flambeau de la gestion de l'entreprise. Donc, elle fait le premier filtre, en fait, du projet. Donc, est-ce que le client connaît son projet ou pas? Est-ce que... il va pouvoir adhérer aux valeurs et aux principes de développement chez KNP. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sympa? Est-ce que, enfin, il y a plein de petits critères comme ça qui font que c'est elle qui fait le premier filtre. Et quand le projet arrive chez nous, ça veut dire que, a priori, il a déjà été bien cadré et qu'on sait qu'on va pouvoir faire du bon boulot avec ce client. On a ça c'est le premier filtre. Après, de toute façon, on a Le deuxième, alors filtre, c'est plus un filtre du coup, mais la deuxième étape, c'est la rencontre. Entre nos équipes, elles sont toujours constituées de un ou plusieurs développeurs et une facilitatrice. Je dis une facilitatrice parce que autant on a au moins une fille développeuse, mais par contre, dans les facilitatrices, on n'a pas de mec, on n'a que des nanas. Donc, ils rencontrent une facilitatrice et un gars de l'équipe de dev. Et puis, on va creuser ensemble le besoin. Et donc, ça va être la deuxième fois qu'on va rencontrer le client et qu'on va parler de ce qu'il a dans la tête et qu'il va essayer de nous expliquer ce qu'il a dans la tête. Ça peut être un projet qui est complètement créé de zéro. Hein. Si c'est une start-up, le site a priori n'existe pas du tout. Il a peut-être même que des concepts marketing dans la tête et il n'a aucune idée de comment est-ce qu'il peut rendre ça fonctionnellement dans un site internet. Ou alors ça peut être un site existant. Toi actuellement, tu bosses sur un site existant.
C'est des refontes quoi, de sites qui sont... Ils sont déjà en prod et du coup on refait tout parce que le site est vieux ou voilà.
Ou changement de technologie.
Il y a besoin de nouvelles fonctionnalités, mais c'est plus possible avec l'ancien système. Enfin, voilà.
Et là, en général, les clients ont déjà plus d'idées fonctionnelles de à quoi doit ressembler le site internet, de qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Il y a une autre étape. Alors, je suis peut-être un petit peu décousue, mais Il y a une autre étape dans cette rencontre, c'est justement le cadrage technique. Parce que, alors, on vous parle de méthode aujourd'hui, on vous parle de gestion de projet, mais nous, on est quand même une boîte de développement et c'est pas pour rien si chez KNP, il y a trois quarts, voire plus de la boîte qui sont des développeurs. C'est une boîte de développeurs, c'est pas une boîte avec des managers ou des trucs comme ça, c'est les développeurs qui font le job et tous ceux qui sont à côté sont des gens qui vont aider les développeurs à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire développer. Et du coup, quand on cadre un projet, on cadre bien ça avec le client et c'est pour ça que les développeurs sont en direct avec le client tout le temps. Alors je vous parle de client depuis tout à l'heure, mais ça pourrait être un utilisateur final.
Oui, ça dépend. En fait, c'est plus une notion de PO finalement, donc product owner.
Ouais.
Enfin, chez le client, on va identifier une personne qui va être capable de prendre les décisions et de nous donner les billes dont on a besoin pour faire avancer le site. Donc c'est lui qui va décrire les features et c'est lui qui va les valider, c'est lui qui va faire on va revenir tout à l'heure, mais les reviews de sprint avec nous, donc qui va valider ce qu'on a développé, etc. Et c'est pas forcément celui qui paye, en fait, c'est plus celui qui va utiliser le site ou qui est plus à même de connaître le site. Quoi.
Ouais, c'est celui qui sait.
Voilà, c'est ça. Généralement, on essaye de limiter cette personne à une seule personne. Il se peut qu'il y ait plusieurs personnes des fois, mais c'est quand même mieux quand il y a une seule personne qui dirige le truc, parce que sinon, s'il y a des avis différents, ça remet des allers-retours en fait en place, parce que du coup, il y a machin qui a dit blanc et l'autre il a dit noir, alors du coup, il faut aller revérifier avec les deux, etc. Donc, c'est toujours plus simple, je trouve, quand il n'y a qu'un seul PO. Voilà.
Et du coup, ça, c'est un premier. Ça fait partie des critères de premier filtre de Laetitia, par exemple. Si elle sait que le client n'a pas d'utilisateur ou n'a pas de personne qui va pouvoir être dédiée au projet, ça ne sert à rien de prendre le projet. Parce qu'on sait forcément qu'on va développer une application qui pourra satisfaire personne, puisqu'il n'y a personne qui connaît le besoin qui doit être satisfait. Donc, le premier critère, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment son produit. Alors, ça peut être le fondateur de la start-up. Que du coup on va plus accompagner sur la définition de son besoin fonctionnel, etc. Comme ça peut être un utilisateur ou un responsable de service, ou enfin voilà. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une personne qui connaisse le produit, en plus des développeurs. C'est primordial et il n'y a pas de... Après, il y a un autre filtre qui est très important pour nous, c'est la qualité. Parce que justement, comme on est une équipe de développeurs, on développe des choses bien. Bonne. Alors, ça, c'est plus toi qui sais comment est-ce qu'on fait, mais comme on va développer de la qualité, on audite les projets sur lesquels on intervient. Je veux juste une petite anecdote, mais dernièrement, et c'est toi qui as fait l'audit, donc en plus, tu veux nous en parler, mais dernièrement, on a reçu une boîte qui est venue nous voir pour qu'on intervienne sur de la TMA. Alors, TMA, c'est tierce maintenance applicative, c'est en gros, l'application, elle existe. Et ils cherchent un prestataire pour maintenir cette application, donc soit corriger des bugs, soit rajouter des petites évolutions sur cette application. Ben, nous, a priori, contrairement à nos concurrents, vu que personne n'a refait cette remontée-là, mais nous, on a audité le projet, on a demandé d'avoir les accès au GitHub, et puis du coup, c'est Antoine qui a été mettre le nez dedans.
Ouais, bah, du coup, c'était un projet qui était fait depuis moins de 6 mois, je crois. Enfin, ça avait été fait très récemment.
Oui, ça avait été mis en prod en octobre, la dernière.
Donc, un projet assez récent finalement. Et du coup, on a regardé un peu le code, etc. Et en fait, il s'avérait que le code, il n'était ni documenté. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune documentation de savoir comment est-ce qu'on installait le projet, est-ce qu'il y avait des serveurs qui étaient déjà en place, etc. On n'avait aucune info. Et surtout, il n'y avait pas de test. Donc, ça, déjà, pas de test, nous, ça nous met souvent la puce à l'oreille parce que on sait que si on touche quelque chose dans le code, potentiellement, on va casser des choses. Ça, on n'aura aucun moyen de garantir au client que son projet ne va pas régresser, en fait. Donc, du coup, là, on est un peu coincé. Et surtout, le code en lui-même déjà était pas hyper propre, ça avait sûrement été fait un peu vite et avec des mauvais concepts. Donc du coup, nous, on s'est retrouvé un peu bloqué. Enfin, en fait, la question s'est posée de dire, si on se retrouve avec ce projet-là dans les mains dans 2 mois, est-ce qu'on va être dans la merde ou est-ce qu'on va savoir avancer et faire évoluer son projet? Et la réponse, c'était non, ça va être galère. Donc du coup, on a été obligé de dire au client, votre projet, on ne peut pas le reprendre dans l'état. Ce qu'on vous propose, c'est soit on le refait complètement, soit on ne prend pas en fait, parce que sinon, nous on sait qu'on ne va pas pouvoir faire un truc de qualité et ça on n'a pas envie. Enfin, nous, notre souci premier, c'est avant tout que le client soit content de son site, et si la qualité du code derrière, elle n'est pas suffisante, il y a forcément un moment donné où il va y avoir des bugs, où il va y avoir des choses qu'on ne va pas pouvoir implémenter parce que du coup, le code est trop couplé. Enfin, bon, après, c'est technique, mais il y a forcément un moment donné où le client va être déçu et on ne va pas pouvoir le faire avancer. Donc, du coup, on préfère lui dire non directement en lui disant bah, nous, on ne peut pas travailler dans des conditions correctes pour vous satisfaire. Quoi.
Et alors, ça. Du coup, comme ce client, on l'aimait quand même vraiment beaucoup et qu'on avait quand même envie de bosser avec lui, on a répondu à l'appel d'offres, mais on a mis ce prérequis, on a dit voilà. Nous, on veut bien bosser avec vous parce que ça a l'air top et je suis sûre qu'on ferait du bon boulot et qu'on a vraiment eu des bons échanges avec eux et tout. Mais on ne peut pas y aller si votre site il reste en l'état, on ne peut pas faire la maintenance de ce site-là. Et c'est typiquement le genre de choses que chez KNP, enfin moi en tout cas, j'adore bosser chez KNP parce que je sais que Laetitia, notre dirigeante, elle assume ce genre de décision de dire non à un client ou de lui donner des prérequis de « on vous dit oui si vous faites ça ». Et ben on fait pas juste de la qualité parce qu'on fait de la qualité, on fait de la qualité parce qu'on a un terrain favorable pour faire de la qualité. Si nos dirigeants nous disaient ben prends cette TMA parce que c'est du business et que du coup il faut y aller, on pourrait pas garantir le fait de faire de la qualité. Donc ça c'est aussi hyper important chez nous, c'est qu'on est vraiment soutenu depuis le tout début du projet, on est soutenu dans cette démarche-là. Et c'est primordial pour nous.
Et puis finalement, enfin, c'est ce que me disait Eve aussi, qui travaille avec nous, qui est ici aujourd'hui, mais c'est que bah, finalement, ce retour-là qu'on a fait au client de dire bah, « non, votre site, on ne peut pas le reprendre dans l'état bah, », le client l'a quand même apprécié parce qu'il nous a dit bah, « vous êtes la seule boîte à qui on a demandé, qui nous a dit « non, ce n'est pas bien dans l'état et on ne peut pas continuer comme ça votre projet ». Et tous les autres concurrents ont dit « oui, on va le reprendre », etc. Et, ils n'ont pas vraiment eu de retour sur la qualité de ce qu'ils avaient entre les mains et sur ce qu'ils pouvaient faire. Et finalement, je pense que bah, là, actuellement, je crois que le client a dit bah, « je ne peux pas permettre de financer
ouais, on n'a pas eu les résultats,
parce que la refonte, mais... c'est pas bon ». Mais par contre, ils ont quand même gardé une bonne image de nous. Et je pense que s'ils ont d'autres projets à faire à court terme, moyen terme, même long terme, enfin même sur, dans plusieurs années, peut-être qu'ils referont appel à nous pour dire bah, « voilà, eux, ils font quand même gaffe à ce qu'ils font ». Bon, après, c'est un pari sur l'avenir. Enfin, pas un pari, mais c'est surtout que nous...
En tout cas, ça marche.
Oui, voilà. Mais nous, en tout cas, on veut faire que de la qualité. Donc, du coup, bah, ce genre de projet-là, on les refuse.
Et ça, c'est un des principes agiles fondateurs. Enfin, le manifeste agile, parce que quand on parle d'agilité, on parle de manifeste agile. Alors, je ne sais pas dans la salle à quel point est-ce que vous êtes au courant de ce que c'est que l'agilité ou de ce que sont les principes de l'agilité, etc. Mais l'agilité, c'est basé sur un manifeste de 4 valeurs et de 12 sous-principes. Et il y a un des 12 sous-principes qui dit qu'il faut maintenir un terrain favorable à l'excellence technique, à l'amélioration continue, etc. Et ça commence dès le choix des projets et dès le choix des clients. C'est primordial en choisissant des bons clients, en disant non, en assumant pleinement les décisions que nous, on prend en termes de qualité. On parle de qualité technique, mais on parle aussi de qualité relationnelle ou de choses comme ça, de transparence, de plein de choses. On s'assure d'avoir, de pouvoir continuer à avoir ça comme terrain favorable, un terrain sain dans lequel il fait bon vivre. Là, je pense qu'on a passé le... On n'a pas parlé de l'extrême quotation. Mais, alors, il y a un truc en agilité qui est assez... qui est toujours un peu... difficile ou compliqué à avoir, c'est la contractualisation agile. C'est quand je fais du forfait, par exemple, je m'engage sur un périmètre, sur un délai, sur un budget, et puis du coup, je dis « ok, ben, on se revoit dans 6 mois », et puis on voit. En agilité, c'est toujours un petit peu plus compliqué, et on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on va s'arrêter, ou alors on ne sait pas à quel niveau de développement on va s'arrêter, ou on ne sait pas à quel budget on va s'arrêter. Et cette incertitude, elle est toujours compliquée à gérer. Alors, dans plein d'autres sociétés, en général, on fait de l'agilité avec des clients qu'on connaît, pour lesquels on a déjà développé des sites ou qui sont déjà des partenaires dans d'autres choses. Chez KNP, on a principalement des nouveaux clients, du coup, qui viennent quand même nous voir parce que ils ont été, par le bouche à oreille, ils ont entendu parler de KNP en bien et donc ils viennent nous voir pour ça. Donc a priori, la confiance, elle est plutôt là, le lien de confiance est plutôt là. Mais on a quand même des gens qui viennent nous voir, genre des startups, qui ont un budget hyper précis qu'ils ne peuvent absolument pas dépasser. Et pour ce budget-là, ils ont quand même besoin d'avoir un certain nombre de fonctionnalités qui pourraient rentrer dans le cadre d'un MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités de base absolument nécessaires à une mise en production pour que, par exemple, ma startup puisse commencer à vivre et à évoluer.
Et surtout, l'important, c'est que dans la plupart des cas, que le site commence à rapporter de l'argent, déjà. Donc avec un lot de fonctionnalités qui permet déjà à l'entreprise de fonctionner, de gagner un peu de sous, quoi. Parce que si on lui fait un super site qui fait de la fumée et qui fait de la lumière, c'est bien, mais si ça ne fait pas ce que le client a vraiment besoin et qu'il ne gagne pas d'argent avec son site, bah, déjà il ne pourra pas le faire évoluer de nouveau parce que s'il n'a plus de budget, bah, il ne gagnera pas d'autre argent, donc ce sera fini. Et puis bah, du coup, sa boîte risque de s'arrêter parce qu'il aura cramé tout son budget. C'est dommage.
Et du coup, le MVP, c'est ce qu'on fait, c'est la première chose qu'on fait quand la facilitatrice est un des développeurs. Alors en général, quand on en est à faire le MVP, on a vraiment toute l'équipe. Je dis en général parce que ce n'est pas toujours le cas. Quand on ne connaît pas toujours le budget du client ou qu'on ne connaît pas forcément son délai, on n'a pas encore forcément staffé toute l'équipe, quoi. On ne sait pas si on va avoir besoin de 1, 2, 3 développeurs. Ça va dépendre vraiment du budget et puis du délai de mise en production du site. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre le client et qu'on fait ce qu'on appelle un sprint zéro. Sprint zéro, c'est on va aller essayer de fouiller le cerveau du client ou de l'utilisateur, ou en tout cas, on peut utiliser le terme de product owner, même si product owner, ça vient de Scrum et que nous, on ne fait pas spécifiquement du Scrum, mais on peut utiliser ce terme-là. On va littéralement aller lui fouiller son cerveau. Un sprint zéro, chez nous, ça peut durer entre 2 heures, si c'est vraiment un tout petit projet, jusqu'à 2 jours. Voire 5 jours. Yann et Flo, ils avaient mis 5 jours à Paris en déplacement, 2 développeurs en déplacement chez le client, 5 jours pour découper le projet fonctionnellement. Alors j'insiste bien sur le fonctionnel, et là Antoine va nous parler de ce que c'est que le BDD.
Ah oui, alors le BDD, c'est Behavior Driven Development. Donc c'est le développement de projet guidé par le comportement. Ça peut paraître un peu pompeux comme ça, mais en fait, c'est une sorte de manière de contextualiser les fonctionnalités d'un projet et ne pas juste les écrire dans un cahier des charges un peu de manière procédurale. Et typiquement, ce qu'on va dire, c'est qu'on va écrire des scénarios d'utilisation. Et un scénario, ça prend toujours la même structure. Ça commence par un given, donc enfin, non, on les écrit en anglais, mais c'est-à-dire étant donné. Donc, étant donné que je suis sur la page de connexion du site, il y a une action après, donc on dit alors, on dit quand je fais telle action, donc par exemple quand je remplis mon identifiant, quand je remplis mon mot de passe avec des identifiants valides, et quand j'appuie sur le bouton me connecter, alors, donc là c'est la finalité du scénario, je dois obtenir tel résultat, je dois être sur la page d'accueil, je dois avoir mon nom affiché en haut à droite, et puis je dois. Avoir un message qui me dit « Bonjour Denis, tu es bien arrivé sur le site ». Voilà. Donc ça, c'est une manière de contextualiser le projet, enfin la fonctionnalité, pardon. Donc du coup, nous, on va essayer de faire ça pour toutes les cartes. Alors, on ne va pas le faire pour, enfin lors du sprint 0 en tout cas, on ne va pas le faire pour toutes les cartes directement parce que ça prendrait un temps de fou. Les cartes, il peut y en avoir 300 dans un projet. Si on passe, si on passe sur les 300 cartes pour écrire les scénarios, on va y passer 3 mois, ça va être injouable.
Et puis du coup, on rentrerait dans un cycle waterfall où on écrirait toutes les spécifications d'un coup et on s'adapterait plus jamais, quoi.
Et du coup, ouais, le projet, en plus, au fur et à mesure qu'on va développer les premières cartes, le besoin du client va évoluer, donc du coup, les scénarios vont être obsolètes et puis on va devoir les refaire de toute façon, donc c'est un peu dommage. Donc on va le faire pour les fonctionnalités vraiment clés. Par exemple, si le client... nous, on a travaillé pour un client qui faisait de la formation en ligne pour les étudiants en médecine. Et on va dire, là, tu as une petite partie où tu as un questionnaire qui est particulier, qui fonctionne de telle manière. Bon, là, on va écrire vraiment ce que ça fait parce que c'est un truc que nous, on ne connaît pas du tout et qu'on a besoin de vraiment approfondir pour pouvoir estimer un peu combien de temps ça va prendre. Mais toutes les fonctionnalités un petit peu annexes qui semblent à peu près claires, etc., on va les estimer à peu près à la louche.
Comme la connexion, par exemple. A priori, on est tous d'accord de comment fonctionne un formulaire de connexion. Donc, on va peut-être pas le décrire complètement comme ce que tu viens de faire là.
Alors après,
pour l'exemple.
On dit à la louche, c'est pas n'importe comment non plus, mais c'est juste essayer
vous expliquer l'extreme connection.
Une sorte de fourchette de dire ça va prendre à peu près tant de temps. Et ça nous permet d'estimer globalement combien de temps va prendre le projet.
Alors le projet ou le MVP justement, le MVP. Si on travaille sur un truc.
Généralement, on estime les deux en fait. On dit le projet en entier, il y a une estimation de, on va dire, à peu près 6 mois. Et puis le MVP, je pense qu'en 2 mois, normalement, on arriverait à sortir un truc.
Voilà. Je reviens sur un truc important, c'est on parle d'estimation, on parle pas de chiffrage, et c'est très volontaire. Une estimation, elle est forcément fausse. Et on part vraiment de ce principe-là. L'estimation, ça sert juste à donner une fourchette, une idée de où est-ce qu'on va aller, mais elle sera forcément fausse. Si je dis le formulaire de connexion, je vais réussir à le développer en 2 jours. En fait, c'est parce que d'après mon expérience ou d'après ce que je connais du truc, on va se dire 2 jours. Mais en fait, j'en sais rien. Tant que je ne l'ai pas développé, personne encore n'a réussi à prédire l'avenir. Et on ne peut pas être sûr que ça va prendre 2 jours. Donc, c'est volontairement, on parle d'estimation. Et quand on parle de, quand on a des clients qui sont limités sur un budget, on va mettre en place un cadre qui nous permettra de ne pas dépasser ce budget. J'y reviendrai après, mais si on repart sur l'extreme quotation, nous on appelle ça des extreme quotation parce que justement elles sont extrêmes dans les deux sens. Elles veulent encore moins dire la vérité que si on avait été finement dans le truc. On prend toutes les cartes du projet, on les estime très relativement. Nous on utilise des tailles de t-shirt.
C'est vrai, en fait, on ne les estime pas en nombre de jours, mais en termes de complexité.
Voilà.
Donc en gros, je crois qu'on a 6 mesures ou 5 mesures.
Ouais, ça dépend des projets, il y en a qui le font 4.
En gros, voilà, on a XS, S, M, L, XL, par exemple. Ça, c'est des complexités de cartes. Donc par exemple, on va dire le formulaire de connexion, c'est S, c'est pas trop compliqué, mais il y a un petit peu de sécurité, donc c'est un peu difficile. Par contre, réaliser un tunnel de commande, par exemple, qui est énorme, où il y a du paiement, il y a des notions comme ça, voilà, c'est compliqué, donc on va dire c'est XL. C'est une complexité. Ah. Et une fois qu'on a fait tout ça, normalement, on a un lot de cartes qui sont estimées les unes par rapport aux autres. En fait, c'est presque de la complexité relative. En fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une première carte assez simple, on l'estime, on dit par exemple ça c'est S. Et puis après, quand on estime une deuxième carte, on dit est-ce que ça c'est plus compliqué que la première? C'est à peu près pareil, donc on l'estime pareil. C'est un peu plus compliqué, on l'estime au-dessus, etc. Donc, du coup, c'est une complexité relative des cartes les unes par rapport aux autres. Et une fois qu'on a estimé toutes les cartes, généralement, on va dire, bon alors une carte S, combien ça nous prendrait de jours à peu près? Donc on va regarder un peu toutes les cartes S qu'on a, et on fait une moyenne, on dit, notre S à nous, dans notre projet, il va valoir à peu près 2 jours, par exemple.
Et ça, c'est très important, il vient de préciser, dans notre projet, parce que la valeur de ces cartes, déjà, les cartes en elles-mêmes ne veulent absolument rien dire. Une carte XL par rapport à une carte S en fonction du projet, ça veut juste rien dire. Mais en plus, dans le projet sur lequel vous êtes par exemple un S, c'est 0, c'est 1. Et sur d'autres projets, un S, c'est 2. Donc ça, c'est hyper important. C'est que ce principe de à quoi correspond une lettre, elle est refaite sur chaque projet. On n'applique pas simplement parce que Antoine, dans sa tête... Dans sa tête d'équipier de cette équipe-là, quand Antoine et Sylvain, ils estiment qu'un S pour eux, ça vaut 1. Mais peut-être que dans la tête de Pierre, Yann ou Flo, S, ça vaut 2 ou ça vaut 0,5. On n'en sait rien, c'est d'autres têtes, c'est d'autres équipes, c'est d'autres fonctionnements.
Et puis en plus, même, je sais que là, le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est un projet qui a des règles métiers assez complexes et c'est difficile de les assimiler. Et au tout début du projet, par exemple, notre valeur de S, c'était 2 jours, je crois. Et parce que du coup, le projet, même si les cartes semblaient simples par rapport au projet, en fait, du coup, nous, la réalisation, quand on lisait la carte, on disait « bon, ça, c'est quand même assez complexe, on va prendre 2 jours ». Et à un moment donné, dans le projet, en fait, on a été assez à l'aise avec la logique métier du client, etc. Et on s'est rendu compte finalement que maintenant qu'on comprenait bien son besoin, toutes les cartes S, finalement, c'était plus vraiment 2 jours, c'était plus 1 jour. Donc du coup, on a rebaissé l'échelle. Et l'estimation du projet, finalement, elle a été baissée. Bon, c'est peut-être pas très conventionnel de faire comme ça, mais en fait, nous, ça nous a semblé assez naturel de dire maintenant, on connaît mieux le projet et finalement, ça reste une carte S comparativement aux autres cartes en termes de complexité. Mais par contre, en termes de réalisation, maintenant qu'on est plus à l'aise avec la logique du client, c'est plus simple pour nous de les faire, enfin plus rapide en tout cas.
Voilà. Et donc là, on va obtenir une estimation très grosse maille, par exemple, votre projet, on peut le faire en 120 jours. Et donc, 120 jours de développement, ça coûte tant et voilà votre enveloppe. Alors, ça, c'est dans un cas de projet assez classique où du coup, on a quelqu'un qui va nous embaucher. Alors oui, c'est un cas, on n'a pas parlé de la facturation chez KNP, mais
oui, c'est
on facture ce qu'on consomme chez KNP. On n'accepte jamais des projets au forfait. Ça, c'est clairement pas notre mode de facturation. Et un autre truc, on facture à l'heure. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous, une journée de développement, un gars, il est focus sur son projet. Je parle pas des pauses café ou des trucs comme ça. Hein. Je parle de focus en termes de je suis en train de bosser sur ce projet. C'est entre 6 et 8 heures. Parce que ça peut arriver qu'on aille aider des développeurs sur d'autres projets, aller faire du pair, aller les dépatouiller d'un truc. On a des gars qui sont spécialisés dans Docker ou dans la CI ou dans n'importe quoi. Et donc, du coup, toi, par exemple, sur ton projet actuel, ça t'est arrivé d'aller aider un autre gars sur le paramétrage de sa CI dernièrement. Et si on facturait à la journée, comme le font la plupart des boîtes de développement, bah, sortir un gars de son projet, ça voudrait dire le sortir la journée entière. Et, ou alors, ne pas être transparent avec le client en facturant toute une journée de développement, alors que manifestement, le gars, il a passé une demi-journée à aller aider un autre projet que celui sur lequel il était. Donc, pour la transparence avec nos clients et pour permettre cette mobilité interprojet qui favorise la connaissance, le partage, toutes ces valeurs qu'on a chez KNP, on facture à l'heure. Et on facture ce qu'on consomme. Alors, ça nous arrive de faire des remises commerciales ou des trucs comme ça. OK, mais dans l'absolu, si on bosse sur un projet, on facture ce qu'on est en train de faire. On ne bosse jamais gratuitement parce qu'on fait de la qualité et qu'il n'y a pas de raison, tout travail mérite salaire. Donc, si on est sur un projet classique où les gens vont avoir un budget plus ou moins extensible, on part sur cette estimation et on commence à développer et on voit ce que ça donne. On peut faire des réestimations en cours de projet, etc. Et si on est dans le cas d'un gars qui nous dit « oui, mais moi, mon budget », je parle de gars, on a des nanas aussi comme clientes, mais je veux dire, si on a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit « moi, j'ai 25 000 euros, pas plus », comment on fait pour garantir qu'on ne va pas dépasser cette enveloppe, sachant que nous, on facture ce qu'on consomme ? Eh bien, on va rentrer un peu plus dans le détail du coup du sprint zéro. On va être très strict sur le périmètre des fonctionnalités absolument nécessaires. C'est-à-dire qu'on ne développera pas d'autres fonctionnalités que ces fonctionnalités-là. Si on est sur un site de e-commerce, par exemple, il y aura forcément un catalogue produit et un module de paiement. Parce que, comme tu disais, il faut qu'ils puissent commencer à faire de l'argent tout de suite. Et donc, on ne développera que ces deux choses-là. On ne va pas développer la mise à jour, la gestion utilisateur, est-ce que je peux avoir un compte utilisateur, tout ça. Non, on fait juste ces deux trucs-là. Et ces deux fonctionnalités, on va les détailler avec des différents scénarios. Le scénario de base, donc le scénario le plus dégradé possible, il n'y aura peut-être pas de charte graphique, il n'y aura peut-être pas d'intégration de charte graphique particulière, il n'y aura peut-être pas, en tout cas, il n'y aura pas de ruban et de chemin, il y aura vraiment la fonctionnalité de base. Et puis, on va faire un scénario un peu plus poussé. Et puis, on va faire un troisième scénario. En général, on s'arrête à trois scénarios. On est plutôt pas mal. Et on fait ça sur chaque fonctionnalité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence à développer la couche du bas. Donc, on commence à développer les fonctionnalités de base. Si on se rend compte, après avoir développé les scénarios de base, qu'il nous reste du budget, alors on attaque les deuxièmes scénarios de chaque carte. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait atteint le budget. Ça nous garantit qu'avec les scénarios de base, on a quelque chose à mettre en production qui va servir au client, dont il pourra utiliser toutes les fonctionnalités. Et ça lui garantit qu'on le fait dans un temps et dans un budget contraint. On n'est pas à l'abri d'avoir des scénarios de base qui ne soient pas si de base que ça, mais justement, comme on sait que le principe étant le budget, on axe vraiment la gestion de projet sur le budget et on suit ça au jour le jour. Mais on a plein de typologies de clients qui
Et puis en plus, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, qui est important, c'est le client, de toute façon, il a une enveloppe, par exemple, de 25 000 euros, on va dire, enfin, c'est une somme totalement arbitraire. De toute façon, il n'a que ça. Donc, si on le facture au forfait, ça veut dire qu'on a signé avec un nombre de fonctionnalités données, on va faire ça pour 25 000 euros. Donc, si on n'a pas le temps de le faire vraiment dans le temps de 25 000 euros, je dis le temps de 25 000 euros parce qu'une journée étant à tel prix, il y a un moment donné, ça fait tant de jours. Forcément, si on veut réaliser tout, on va soit lésiner sur la qualité, parce qu'on va aller, aller très vite pour finir son projet, ou soit on va dépasser et en fait, on va perdre de l'argent. Ouais. Parce que du coup, on va travailler plus de temps que prévu. Et comme nous, on ne veut pas lésiner sur la qualité, et c'est le seul truc sur lequel on est intransigeant, c'est que on a un niveau d'exigence de dire voilà, nous on veut atteindre tel niveau de qualité, ça veut dire que c'est du temps incompressible pour réaliser les fonctionnalités. Donc le client, il est sûr d'avoir à la fin un projet pour 25 000 euros qui n'est pas forcément tout ce qu'il avait demandé au début, mais au moins qui est qualitatif et il peut gagner de l'argent avec et il n'y aura pas besoin de le refaire au bout de 6 mois, comme par exemple le projet qu'on a audité il y a quelques mois, qu'on a proposé de refondre. Mais du coup, en tout cas, le client, il sera forcément satisfait de ce qu'il a, je trouve.
C'est oui. L'expérience le prouve, en fait, on n'a aucun projet. On a des projets qui se passent plus ou moins bien. Il y a des projets qui sont, avec des équipes qui sont plus ou moins bien. Ça nous arrive d'avoir des équipes avec des équipiers qui ne fonctionnent pas bien ensemble ou qui, au bout d'un moment, ont besoin de changer d'air. On a des clients qui sont plus ou moins... sympa, on va dire, c'est-à-dire plus ou moins cordiaux, etc., avec qui c'est plus ou moins sympa. Il y a des clients avec qui on va boire des bières, puis il y a des clients avec qui on ne va pas boire de bière, quoi. Voilà, pour résumer un peu. Et ça fait ça. Mais il y a quand même un truc qui est constant, c'est que les clients, ils sont toujours contents, quoi. Enfin, ils sont toujours satisfaits de ce qu'on produit. Et encore une fois, parce que nos valeurs, c'est la transparence. Quand il se passe quelque chose de pas bien sur un projet, que ça soit au sein d'un truc humain qui se passe dans l'équipe ou d'un point de vue technique ou d'un point de vue fonctionnel ou n'importe quoi, on se le dit. Alors, on se le dit entre nous, mais on se le dit avec le client. Et on... ça, c'est aussi un principe de l'agilité, c'est la transparence. Et Extreme Programming, il y a une valeur qui s'appelle le courage. C'est... nous, on a le courage de dire stop, on a le courage de dire on est désolé, on a merdé. Alors, on a merdé. L'équipe a merdé, en tout cas, on n'a pas réussi à faire ce qu'on comptait faire. Et rien qu'en se le disant, je pense qu'on a un niveau de confiance et de transparence qui fait qu'on a une satisfaction des équipiers et du client. Et c'est ça qui fait que les clients y reviennent et que du coup, ils font du bouche à oreille en disant que ben, chez KNP, c'est du chouette boulot qui est fait, quoi. Et pas juste parce que c'est qualitatif d'un point de vue développement, mais parce que c'est qualitatif d'un point de vue gestion de projet tout court, quoi. C'est que tu vas bien t'en sortir si tu fais développer ton projet chez nous. Et on rentre un peu plus dans le détail de après le sprint zéro.
Oui, on peut.
Du coup, on est dans un projet. On a fini du coup le sprint zéro, on a cadré le projet, on s'est mis d'accord. Alors, on a fait un kick-off interne. Le kick-off interne, c'est répartition des rôles. Parce que comme une équipe, nous, on met l'humain au cœur de tout. On sait qu'une équipe, elle est différente simplement en fonction des humains qui la composent, que ce soit les développeurs, les facilitatrices ou le client. Donc, on fait toujours un kick-off interne, répartition des tâches. Alors, on prend les tâches basiques, qui va écrire les cartes, qui va rappeler qu'il faut faire la recette. Tiens, on sait que ce client, il est un peu dur, justement, il ne fait pas souvent les tests quand on livre des trucs. Ben, du coup, il faut quelqu'un qui lui rappelle. C'est aussi simple que ça, c'est la tâche de qui va aller toquer à la porte du client pour lui demander s'il a fait les tests. Il peut y avoir des tâches de mise en prod, enfin, tout ça, et on se les répartit dans tous les membres. Et il y a des projets sur lesquels la mise en prod est faite par un seul gars dans l'équipe. Il y a des projets par lesquels la mise en prod est faite par tout le monde dans l'équipe. Enfin, voilà, c'est chaque projet est différent. Puis après, on fait le kick-off projet, c'est-à-dire qu'on là, on se met d'accord sur la méthode qu'on va utiliser, le rythme de livraison, par exemple. Alors, nous, on parle de sprint, on utilise un vocabulaire de Scrum, même si on ne fait pas toujours du Scrum, on va dire, from the book ou avec les intérêts de Scrum, mais... Donc, on définit le rythme du sprint, les heures de daily, les jours de review, rétrospective et sprint planning. Moi, j'ai des projets sur lesquels le rythme est de une semaine, deux semaines. Un principe de base aussi, les développeurs, ils sont sur un et un seul projet. Alors, ça peut arriver quand on est entre deux projets, qu'un développeur puisse être sur deux projets, c'est-à-dire celui qui se termine et puis celui sur lequel qui va démarrer. Mais en général, on essaye de faire en sorte qu'un développeur soit sur un projet. Et par contre, les facilitatrices, elles sont sur plusieurs projets parce que du coup, elles ne sont pas à temps plein sur un projet. Donc Antoine, il est sur un et un seul projet. Et moi, je suis sur 3, 4, 5 projets. Ça dépend du nombre de projets qu'on a en parallèle. Et donc les sprints et tout ça, on fait en sorte que ça fonctionne pour toute l'entreprise. C'est-à-dire que si on fout un daily à 9h20 le matin, bah, on fait en sorte que 9h20, il n'y ait aucun autre projet qui ait un daily à 9h20. Parce que sinon, quand on part en congé et qu'on ne peut plus faire les délits, ben, il faut que quelqu'un d'autre vienne le faire. Et si lui avait déjà un délit ailleurs, ça ne fonctionne pas. Donc, on essaye de s'arranger pour qu'on ait toujours des horaires qui aillent bien. Et une fois qu'on a fait ça, on lance vraiment le projet, on part en développement. Alors, on part en sprint. Du coup, on fait des sprint planning. Je ne sais pas si on va rentrer beaucoup dans le détail parce qu'on fait globalement un peu ce qui est dit dans Scrum, quoi.
Bah ouais, le sprint planning, il y a quand même des petites notions qui sont importantes. C'est que, par exemple, une fonctionnalité, pour la mettre dans un sprint, on va toujours s'assurer. Alors, des fois, on ne le fait pas, ce n'est pas bien, et on a eu des déboires avec ça. Mais on va toujours s'assurer que la fonctionnalité elle est décrite correctement, qu'il y a des scénarios écrits, qu'on sait exactement ce que le client veut, et qu'on ne va pas passer une semaine à développer quelque chose pour que le client nous dise à la fin « Ah ben non, mais ce n'est pas ça que j'avais en tête, moi je voulais autre chose. » Du coup, on va vraiment essayer de prendre les cartes qui ne sont… Enfin, uniquement les cartes qui sont décrites, quoi, pleinement.
Ouais,
estimer ou réestimer par rapport à ce qu'on avait estimé dans l'extreme quotation. Ouais. Généralement, on refait une extreme quotation à chaque sprint parce que notre vision du projet évolue à chaque sprint. Notre
Alors ouais, on ne fait pas une extrême quotation de tout le backlog par contre.
Non, mais des cartes.
Après, on réestime chacune des cartes qui rentrent dans le sprint. Juste parce que si un sprint dure une semaine, qu'on a deux équipiers, on a donc a priori 10 jours de disponibilité des devs. Et donc, ben, combien de cartes on peut prendre ? Alors, il y a des projets sur lesquels on ne réestime pas. J'ai un projet en tête, par exemple, où on n'estime pas, juste on voit quoi. Est-ce que l'équipe se sent de prendre toutes les cartes qui sont là ? Ouais, ok, bah, on y va. Et puis il y a d'autres projets, comme le projet sur lequel t'es, où là, on estime et on se rend compte parfois que découper une carte qui était à 4 points, par exemple, si on la découpe, on peut se rendre compte qu'on est tombé sur plusieurs cartes qui, au final, donnent 8 points. Donc ça vaut le coup. Moi, j'ai tendance à leur dire, d'ailleurs, aux gars, parce que moi, par contre, en tant que facilitatrice, j'estime pas du tout. Hein. Le client n'estime pas non plus. Il n'y a que les devs qui estiment ce qu'ils vont faire, puisque c'est eux qui vont le faire. Hein. Et des fois, je leur dis, vous êtes sûr de votre 4 points là ? Parce que quand ça dépasse 2 points, je sais que l'estimation, elle est très, très loin de ce qu'elle veut. Et du coup, on découpe les cartes si elle est découpable. On essaye de faire en sorte qu'elle soit découpable. On découpe la carte en, du coup, plusieurs scénarios et on estime chaque scénario. Et là, on se rend compte que, oui, mais en se creusant sur ce scénario, ça tire d'autres ficelles, d'autres questions, d'autres machins, et on se rend compte qu'il y avait d'autres trucs derrière. C'est un temps qui est hyper important. Nous, sur ton projet, on est à des rythmes de une semaine. Et chaque semaine, on prend 2 heures pour faire la review, c'est-à-dire la démonstration du produit, avec le client toujours, hein, la rétrospective et le sprint planning. Et ça prend du temps, 2 heures à 4 personnes qui passent 2 heures. Ça peut paraître énorme chaque semaine. Mais en fait, c'est ça qui permet de savoir où on va et de vraiment découper le truc au maximum, quoi. Mmh. Et d'être vraiment sûr de ce qu'on doit faire.
Et puis, comme disait Cécile, ouais, l'extreme quotation, dès qu'il y a des cartes qui sont assez grosses, la marge d'erreur, elle est toujours plus importante, ouais, que sur des petites cartes. Parce que, par exemple, si on a une fonctionnalité, c'est juste en fait un fixe d'un client qui va nous dire bah là, il y a écrit le titre qui a écrit bienvenue, machin, j'aimerais bien qu'il y ait écrit bienvenue à toi, machin. Donc, du coup, c'est juste une petite évolution, on sait exactement ce qu'il faut faire, c'est très très précis. La marge d'erreur pour estimer cette carte-là, elle est quasi nulle parce que bah, c'est un truc vraiment très atomique et il y a peu de paramètres qui rentrent en compte qui vont faire que la fonctionnalité va prendre plus de temps que prévu. Alors qu'une grosse carte, par exemple, développer un tunnel de commande, il peut y avoir des millions de trucs qui vont arriver et qui vont faire que bah, ça va prendre plus de temps que prévu parce qu'il y avait ce petit cas-là qu'on n'avait pas vu et qui va faire que la carte va prendre pas 4 points mais 8 points d'un coup. Et ça, avec des grosses cartes, on n'arrive pas vraiment à le voir, généralement. Et je sais que bah, sur le projet sur lequel on est actuellement, il y a pas mal de fois dans les sprints, il y a quelques mois, où on mettait des grosses cartes dedans et on dépassait toujours, on n'arrivait jamais à les terminer. Et depuis quelques temps, on essaye de découper vraiment un maximum et de mettre des toutes petites cartes dedans. Et ça fait, je crois, 4 sprints qu'on a réussi à chaque fois à le terminer correctement en avance. C'est cool, quoi.
Et en termes de motivation d'équipe, c'est hyper important. Ouais. Parce qu'une équipe qui foire ses sprints à chaque fois, même si, en l'occurrence, le client, là, on est sur une refonte qui, de toute façon, sera terminée quand la refonte sera terminée. Donc, on n'a pas de limite budgétaire fixe. On en a une, globalement, mais elle n'est pas à la virgule près. Donc, on est plutôt... on est bien, c'est chouette, c'est tout. Mais n'empêche que, d'un point de vue motivation d'équipe, le fait de ne pas réussir le sprint... C'est démotivant, quoi. Ça donne pas envie. On se dit, oh, bon, on va commencer un sprint, on sait déjà qu'on va pas le finir et tout. Enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais on le voit bien dans les rétros que ça remonte à chaque fois. Point positif, on a fini le sprint, c'est chouette, c'est...
Et puis le client n'est pas déçu. Il sait que là, dans son sprint, il a cette fonctionnalité là. À la fin, il aura ça qui sera fini. Alors, il peut y avoir des retours, il peut y avoir une fonctionnalité qui n'est pas tout à fait comme il voulait. Il y a peut-être quelques retours à modifier. Mais au moins, il est content. Il sait que ça avance, que si on fait... En plus, Cécile a mis en place un système qui fait que... Bah, on sait qu'en moyenne, dans un sprint, on fait tant de points. Bah, du coup, lui, il a une estimation, il a sa backlog qui fait tant de points. Donc, il sait, juste par une simple division, de dire, bah, voilà, il y a 300 points dans la colonne, on fait 7 points par semaine, ça va me prendre tant de temps, quoi. Il sait combien de temps il reste, facilement.
Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas de la manière dont on monitore un projet agile. Comment est-ce qu'on sait quelle va être la date d'atterrissage ou ça ? Ben, en fait... En fonction des projets, il faut trouver le bon indicateur. L'indicateur qui fera qu'on peut s'assurer que la date d'atterrissage, elle est là, plutôt que complètement dans un an, quoi. Et en l'occurrence, sur ce projet, effectivement, on calcule le nombre de points. Alors, c'est en moyenne, mais on se base aussi sur les dernières expériences. le nombre de points qui a été réalisé pendant un sprint nous permet de se dire que ben, vu que dans ce backlog il y a X points, on va avoir X, enfin, on va avoir besoin de X sprints pour finir tout le backlog et donc a priori on va atterrir. Alors, ce n'est pas une science exacte puisque le backlog étant un élément vivant, il se remplit, il se désemplit, il se modifie tout au long de la vie du projet. Mais on sait qu'à un instant T, on est capable d'avoir une photo de la date d'atterrissage. Et ça permet quand même, notamment pour une gestion de planning qui est hyper importante dans une entreprise, de savoir bah, cette équipe, a priori, on sait que mi-juin, on peut se dire que le projet sera relativement terminé en date d'atterrissage. Sur d'autres projets, on monitore le périmètre, par exemple. Si on a, alors, on a des projets où on a des périmètres fixes. Dans l'absolu, ce n'est pas du tout agile, mais c'est pour ça qu'on n'utilise pas sur ces projets du Scrum ou des choses comme ça. C'est parce qu'on sait que le backlog, lui, ne va pas évoluer. Un backlog qui n'évolue pas, ce n'est pas vraiment un backlog. C'est un cahier des charges, c'est un cahier de spécifications, ça peut être... Enfin, il y a plein de vocabulaire pour dire ça, mais en tout cas, on peut se dire que ça ne rentre pas dans un cadre agile. Alors oui, ça ne rentre pas dans un cadre agile parce qu'on n'est pas dans une adaptation au marché et on ne va pas faire évoluer notre produit en fonction des feedbacks utilisateurs. Mais on peut utiliser des pratiques agiles comme le daily pour avoir plus de synchronisation dans l'équipe et avoir plus de transparence. On peut mettre en place des rétrospectives régulièrement pour mettre en place un système d'amélioration continue. On peut quand même mettre en place un système de sprint et de sprint planning pour amener un certain rythme et ne pas avoir une équipe qui s'essouffle parce qu'elle fait toujours la même chose. On peut amener des techniques et des pratiques qui viennent de l'agilité, même si fondamentalement on est sur un projet qui est statique. Et ça amène du coup le côté humain et motivant de l'agilité. Et ça, ça nous arrive de le faire sur des projets sur lesquels on n'est pas du tout agile de base, quoi. Enfin, je veux dire, bon, sur le papier, on pourrait se dire où est l'agilité là-dedans, quoi. Ça nous arrive aussi. Et donc, le dernier truc qu'on fait, enfin, on part en sprint. Du coup, les gars dev, je vous l'ai dit, on essaye de faire en sorte qu'ils soient sur un seul projet. C'est primordial. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais la déconcentration et l'interruption, ça fait qu'une journée de 8 heures a priori de dev, si on est interrompu pour aller intervenir sur tel autre projet ou tel autre sujet ou quoi, forcément on ne va pas bosser 8 heures, on ne va même pas bosser les 6 heures sur lesquelles on était devant notre écran. On va bosser peut-être 4 heures, peut-être 2 heures, parce que du coup le cerveau n'est juste pas disponible à travailler. Donc, la focalisation, c'est quelque chose de très important et c'est ce qui fait qu'on est les plus. C'est ce qui fait qu'on travaille mieux quand on est focalisé sur quelque chose, sur une tâche. Et ça, on essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins 2 développeurs. Alors, ça nous arrive, hein, parce que pour plein de raisons, qu'il y ait des projets où il n'y a qu'un seul développeur, mais on se rend compte à quel point c'est problématique. On a ce qu'on appelle un bus factor qui est égal à 1. Le bus factor, c'est le nombre de personnes qui, si elles se prenaient un bus, non mais c'est pour ça que ça s'appelle le bus facteur. Hein. si j'ai 3 personnes qui bossent sur un projet, par exemple, j'ai 3 personnes qui ont la connaissance sur ce projet, il faut donc qu'un bus passe sur ces 3 personnes avant que j'ai plus aucune connaissance sur ce projet. Le bus facteur est donc de 3. C'est plutôt pas mal, parce que d'ici à ce que ça arrive, on peut rien. Par contre, un bus facteur de 1 sur un projet, ça veut dire que le gars, il se pète une jambe, il se pète une cheville.
C'est arrivé.
Il tombe malade. Il tombe malade juste avant le hackathon. Il fait des trucs, enfin voilà. Tout le monde sait chez KNP de qui je parle. Ce gars-là, il est tout seul sur le projet et plus personne n'a la connaissance sur le projet et donc personne ne peut bosser sur ce projet à sa place. Parce que ça, c'est important, c'est les développeurs, ils ne sont pas interchangeables comme ça, ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on développe en PHP que du coup je reprends un autre projet qui a été développé en PHP, je suis capable de le reprendre. C'est pas ça être développeur. Être développeur, c'est connaître le fonctionnement du projet, c'est connaître le client, c'est connaître l'équipe, enfin c'est connaître... C'est un métier entier, quoi, être développeur. C'est pas juste écrire des lignes de code. Et du coup, c'est hyper important de l'avoir en tête, quoi, quand on constitue des équipes. Et donc, à la toute fin d'un sprint, on fait la rétrospective. Alors, ça peut être des rétrospectives qui sont très rapides, comme ça peut être des trucs un peu plus longs si ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait.
Généralement, plus le projet se passe bien, plus c'est court. Plus ça se passe mal, plus c'est long.
C'est un peu ça. Et plus c'est long, moins c'est bon, clairement, les rétrospectives. Ouais, c'est pas... Rétrospective, il y a plein de formats pour varier, parce que quand on en fait toutes les semaines, au bout d'un moment, peut-être qu'on peut se lasser. Il y a plein de formats. Mais globalement, l'objectif, c'est de mettre en place l'amélioration continue. Donc, c'est de s'interroger sur ce qui fonctionne, s'interroger sur ce qui ne fonctionne pas ou moins bien, et d'améliorer du coup ce qui ne fonctionne pas. Le but du jeu d'une rétrospective, ce n'est pas d'avoir un plan d'action sur les 6 prochains mois. C'est d'avoir un plan d'action, donc une action, c'est quoi, qui, quand. Hein. Ce n'est pas juste une idée, c'est vraiment une action. Il y a quelque chose à faire, une tâche à réaliser. Et cette action, elle doit être mise en œuvre dès le lendemain ou dès l'après-midi si le truc est fait dans la matinée. Quoi. Donc, c'est des actions qui sont très concrètes et qui sont... Et même sur des équipes qui roulent, alors le projet sur lequel tu es, il roule depuis je ne sais pas combien de...
Presque 2 ans maintenant. Si tu en...
Presque 2 ans, et pourtant on trouve encore des actions d'amélioration. On a fait le sprint planning hier.
Hier,
et enfin le sprint planning, enfin la fin de la sprint, rétro, quoi, la rétro, tout ça. Et du coup, on a encore trouvé des actions, des trucs qui ne fonctionnent pas tant que ça. Je ne sais plus ce que c'était. On avait un problème sur... on s'emballe un peu trop
la
sur des...
Bah encore une fois, quand on prend là, en l'occurrence, on a pris un peu d'aisance avec le projet. Il y a des cartes, on les a appelées en disant oh, « c'est bon, je sais ce que c'est ». Et en fait, bah, c'était pas bon et on s'est planté sur une carte dans un sprint parce que le client il avait demandé tel truc, on n'a pas creusé plus que ça. Finalement, bah, c'était pas ce qu'il voulait. Donc voilà, même en se prétendant très agile, tout ça, des fois, on fait aussi des erreurs, ça arrive.
Donc on s'est remis une action de « on ne prend pas une carte si elle n'a pas été vraiment validée, décrite par un utilisateur final ». Parce qu'en l'occurrence, notre product owner, il connaît très bien son produit, mais il y a des parties qui sont un peu spécifiques. C'est une application financière, enfin, il y a de la compta, il y a des trucs, je dis finance, non, il y a de la compta, il y a des trucs comme ça, et ben des fois, juste lui, il n'est pas comptable, donc il connaît très bien son application, mais ce truc-là particulièrement, c'est pas son cœur de métier. Et ben là, c'est à lui du coup de vraiment valider la carte avant de nous la donner en sprint. Et à nous de vérifier que il est bien d'accord avec ce qu'il y a dedans, quoi. Hein. C'est hyper important. Donc c'est ça aussi, le droit à l'erreur, c'est hyper important. C'est pas parce que le projet il roule depuis 2 ans, c'est pas parce que KNP est agile existe depuis 2009, c'est pas parce qu'on fait des confs au printemps agile sur l'agilité que on fait pas des erreurs sur l'agilité ou sur quoi. Et c'est hyper important de se donner le droit à l'erreur aussi. On peut commencer l'agilité, on peut faire de l'agilité sur des tout petites choses très régulièrement, et c'est comme ça qu'on fait. Et se garder toujours en tête que ce qui compte dans l'agilité, c'est l'humain et l'amélioration continue, bah, ça aide à s'améliorer et à en faire tout le temps. C'est
ça. Peut-être expliquer quelques exemples de rétro qu'on peut faire quelques... Moi, je sais qu'il y en a 3 que j'aime bien. Enfin, ce qu'on fait plus souvent, c'est le start-stop-continue. C'est-à-dire, on dit bah, qu'est-ce qui est bien dans le projet, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire qui marche bien actuellement. Et du coup, c'est un petit rappel pour dire bah, ça, on continue vraiment à le faire, on avance dessus parce que ça nous booste. Il y a qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire parce que ça nous a freiné, c'était trop long, ça, je sais pas, ça nous a fait perdre du temps, etc. Donc, on les énonce. Et qu'est-ce qu'on pourrait commencer à faire pour faire améliorer certains critères du projet, etc. Donc ça, c'est un atelier qui est intéressant et c'est assez facile à mettre en place. Il y a de la 3 colonnes, voilà, chacun a un petit brainstorming en fait avec ça. Et après, en fonction de ce qu'il y a comme résultat dans ces différentes colonnes, on essaie de mettre en place, trouver des actions concrètes à mettre en place pour améliorer certains points. Et ce qui est important, c'est de pas essayer de résoudre tous les points d'un coup, c'est essayer de se focaliser sur 1 ou 2 critères et dire bon, ces 2 critères-là, on les améliore pour le prochain sprint. Une fois que c'est amélioré, bah, du coup, on essayera lors de la prochaine rétro de trouver d'autres points et de les améliorer, etc. Parce que si on se focalise sur 10 points, par exemple, pour 2 semaines de travail, on n'arrivera jamais à résoudre rien, en fait, parce qu'on va être éparpillé vers plein de sujets différents et on va pas y arriver. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième atelier que j'aime bien aussi, c'est quand il y a un petit peu de tension dans les projets. Notamment, je sais qu'il y a un projet où j'avais travaillé où le client n'était pas hyper content, il y avait des tensions, il y avait... Sur le chat, des fois, il y avait des petites phrases, des trucs un peu pas agréables. Et ça, il faut essayer de désamorcer le plus vite possible parce que c'est dans l'intérêt de personne de continuer à évoluer dans cette situation. Et il y a un atelier qui s'appelle le speedboat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, on représente le projet par un bateau.
Un speed bateau.
Un bateau qui va vite. Généralement, on fait des voiles parce qu'en fait, il y a des facteurs qui vont faire accélérer le bateau, c'est le vent. Donc, on dessine un nuage qui souffle avec du vent dans les voiles. Et le but, c'est d'aller vers une île, en fait. Donc on dessine un bateau, une île, le vent et la mer. Et le bateau, il est propulsé par le vent et il est ralenti par des ancres. Donc du coup, on va coller des post-it sur le tableau en disant bah, « là, il y a ce critère-là, c'est un truc qui nous booste dans le projet, donc ça fait du vent, ça avance. Il y a des critères qui nous ralentissent, c'est des ancres. » Et généralement, je sais que lorsqu'on avait fait cet atelier dans ce projet-là, en fait, on se représente tous dans le bateau, on se rend compte qu'on est tous dans la même équipe, etc. Et on essaie de trouver des solutions pour faire tous avancer le bateau dans le même sens et plus arrêter de le freiner. Étrangement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça désamorce certains conflits, en fait. Et je sais que sur ce projet-là, en tout cas, il y avait des conflits et le client a ressorti de la réunion en mode il était super content, il était très agréable, etc. C'était assez cool. Donc ça peut être utile. Je ne sais pas si ça se reproduira sur d'autres projets de désamorcer les conflits comme ça, mais nous, ça avait fonctionné. Donc voilà, je vous le dis. Et il y a un autre atelier qui est la météo du projet. Ça, j'aime bien aussi. En fait, on avait travaillé avec un projet qui était. Il y avait beaucoup de développeurs, beaucoup d'acteurs. Et c'était un projet international. Donc il y avait le client, il était en Allemagne, il y avait des développeurs en Inde. Nous, on était ici à Nantes. Enfin, ici, pas ici à Nantes.
Voilà. Toi, tu étais ici à Caen, en tout cas?
Oui, non, j'étais encore à Nantes.
Ah, t'étais encore à Nantes.
Bref. Et du coup, quand il y a beaucoup d'acteurs comme ça, si on fait une rétro avec chacun met son petit mot, son petit post-it, etc., il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume de post-it et finalement, on ne se rend plus vraiment compte de si le projet va bien ou pas bien. Mettre des actions en place, c'est difficile. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que chacun dit sa météo du projet. Si le projet il est ensoleillé, si c'est nuageux ou si c'est de l'orage. Si c'est de l'orage, c'est que le projet ne va pas bien du tout. Si c'est ensoleillé, c'est que tout va bien et que tout le monde se sent plus ou moins bien sur le projet. Et après, il faut essayer, si on veut aller plus finement, peut-être faire des réunions avec plus petites équipes pour essayer de cibler dans cette équipe-là qu'est-ce qui se passe le mieux ou pas. Et en l'occurrence, sur ce projet-là, le client, il voyait son projet en soleil, ça se passait super bien. Et tous les développeurs ont mis orage, 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 orage. Et du coup, c'est une gros lanceur d'alerte pour les facilitatrices qui était Eve en l'occurrence, et qui du coup a pu essayer de mettre en place des actions pour dire, enfin aller voir chaque développeur, dire qu'est-ce qui se passe mal dans le projet, pourquoi ça va pas, parce que après il y avait diverses raisons, mais du coup ça a permis dans une équipe qui était assez nombreuse de lever des problèmes plus facilement.
Et on en revient à la transparence, c'est hyper important que le client soit toujours là. Alors le client, on parle du client ou du product owner, ou les deux, en fonction du niveau d'avancée d'un projet ou quoi. Mais encore une fois, c'est toujours hyper important que le client soit au courant de comment les développeurs vivent et que les développeurs sachent comment les product owners ou les clients vivent le projet aussi. Si ça avait été l'inverse, les développeurs mettent que du soleil et que le client lui met un orage, mais qu'est-ce qui se passe quoi, pourquoi est-ce que nous, on est tous hyper contents et que lui, il n'est pas content, comment ça se fait quoi. Et la transparence, c'est toujours avoir le même niveau d'information, tous, c'est le plus important. Tout dernier point d'un projet, on le fait très rapidement et après on vous laissera la place aux questions si vous en avez. La mise en prod. Alors, sur un maximum de projets, on essaye de... j'aime bien dire, moi, on ne met pas en prod un vendredi. Et il y a un dev chez KNP qui aime bien dire pourquoi plus on met en prod souvent et moins on a peur de mettre en prod. Et donc, du coup, il faut mettre en prod très souvent et pourquoi pas le vendredi. Et bien, c'est un principe qu'on essaye de mettre en place le plus possible. Alors, ce n'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas toujours accès aux plateformes sur lesquelles on développe. On n'a pas toujours la main sur toutes les plateformes, etc. Mais on essaye de mettre en place ce qu'on appelle de l'intégration continue avec nos plateformes de CI, mais aussi de mettre en place du déploiement continu. Et du coup, d'automatiser un maximum et de rendre ça beaucoup plus naturel pour que justement, on n'en ait pas peur. Et plus on livre fréquemment, moins on a de... problème, parce que du coup, en fait, si je mets en prod le produit de 6 mois de développement et que j'ai un problème, il faut que j'audite 6 mois de développement pour savoir d'où vient le problème. Si je mets en prod une journée de développement, j'ai qu'une seule journée à auditer, donc a priori, je peux faire un rollback déjà très rapidement pour retourner. Et en plus, je peux auditer beaucoup plus facilement d'où vient le problème. On en revient au même principe que plus une carte est grosse et plus sa marge d'erreur en termes d'estimation est faute. Pareil, plus le paquet qu'on déploie est gros, plus il y a une marge d'erreur et de bugs et de problèmes qu'il y a dedans est gros. Donc, il faut réduire les paquets qu'on met en prod. Et donc, pour ça, il faut réduire le temps de mise en prod. Donc, on essaye de le faire.
En ce qui concerne le vendredi, je trouve qu'il y a quand même... Ça dépend du projet, en fait. Ouais, il y a certains projets, le vendredi, c'est vraiment risqué.
Non, mais c'était pour la blague. Enfin, c'était pour introduire le...
Parce que vendredi, le week-end, on ne parie pas, généralement. Et il y a certains projets, s'ils ne sont pas... le week-end, il y a un problème et que le site n'est pas, accessible ou quoi, il y a des clients pour lesquels ça peut être dramatique. Quoi. Oui. Par exemple, le client qu'on avait qui faisait de la formation en ligne pour les médecins, pas pour les étudiants en médecine, si leur site il n'était pas en ligne le week-end, ils se prenaient des centaines de mails incendiaires pour dire c'est inadmissible parce que bah, les étudiants en médecine, eux, ils veulent travailler le week-end, ils sont hyper concentrés, ils ont un max de trucs à faire. Et si le site ne marche pas, ne serait-ce qu'une après-midi, c'est dramatique pour eux. Donc du coup, là, sur ce projet-là, le vendredi, on ne faisait rien. Quoi, parce que sinon, on passait notre week-end à débrouiller.
Enfin, on ne mettait pas en prod. Voilà. Quand il dit on ne faisait rien, on n'allait pas boire des bières toute la journée non plus.
Quoi. Quand il croche, mais sinon.
Oui, mais ça, c'est habituel. Voilà. Pour lancer la journée. Ben, voilà, globalement, je crois qu'on a parlé un petit peu de tout. On a essayé de faire chronologique, mais évidemment, c'est un petit peu difficile de résumer en une heure, enfin en 50 minutes. La vie de plusieurs projets, de toute une équipe de développeurs, facilitatrices et tout. On a essayé de résumer au maximum ce qui fait que nous, on fait de l'agilité même quand le cadre n'est pas forcément très agile. Et qu'en tout cas, c'est basé sur vraiment l'humain, la qualité, la transparence, des valeurs qui viennent de l'agilité, qui transparaissent de l'agilité. Et que ça, c'est possible parce qu'on a un terrain favorable. Alors, on a un terrain favorable parce qu'on a des équipes qui sont top, et le recrutement est quelque chose de très important chez nous. Toute personne, enfin, il y a toujours un développeur, une facilitatrice, tout le monde qui donne son avis sur un recrutement, par exemple, c'est hyper important pour nous que la personne, elle soit dans l'esprit KNP. C'est vraiment ça, quoi. On peut avoir des gens qui sont plus ou moins bons techniquement ou quoi, s'ils sont dans l'esprit KNP, ça va le faire, ils vont être dans l'équipe. Et du coup, tout ça, ce terrain-là, il vient de ces gens-là, il vient de la direction, il vient de plein de choses qui font qu'on fait vraiment de l'agilité, même quand on croit qu'on n'en fait pas, quoi. C'est un peu ça. Même quand le cadre, en tout cas, n'est pas très agile au départ, quoi. On essaye d'en faire quand même. C'était la petite conclusion, et du coup, 7 minutes pour les questions-réponses. Je vais faire passer le micro s'il y a des questions. Ah, je vais faire passer le micro tout au fond. Merci.
Bonjour Cyril, merci pour la présentation. Je suis aussi focus sur la facturation à l'heure.
Ouais.
Je ne comprends pas. Moi, je facture à la journée et je suis en train de faire la
facturation à la semaine en réflexion. Comment vous gérez économiquement, ça doit être compliqué. J'arrive pas à voir comment vous arrivez à faire ça.
Alors en fait, on a des timesheets, donc des feuilles de temps en fait, et soit les développeurs eux-mêmes, soit la facilitatrice, soit ça s'arrange selon les projets. On remplit notre timesheet tous les jours sur combien d'heures du coup on a passé sur quel projet. Donc on a des timesheets par projet et puis ensuite on calcule le nombre d'heures qu'on a fait dans le mois et on facture au mois. Donc on facture au mois, mais en fait on facture à l'heure, un volume horaire, on va dire quoi. Et ça nous permet en fait de s'autoriser le fait que sur une journée, je peux ne facturer que 6 heures à un client, parce que je vais facturer 2 autres heures, soit à un autre client, soit je ne vais pas les facturer parce que j'ai passé du temps sur un projet open source, ou sur la préparation d'une conférence, ou sur plein d'autres sujets.
Alors techniquement sur la spreadsheet, je pense qu'il y a des outils qui le font. Économiquement, vous y retrouvez ? C'est plutôt ça, en fait. Alors, c'est plutôt... si quelqu'un fait que 6 heures par semaine, il peut arriver, hein. C'est pas... On est 80% d'activité, donc 6 heures par jour, pardon, c'est suffisant.
Oui, parce que 6 heures par semaine, on vit pas, quoi, hein, c'est clair.
Voilà. Mais au final, quand, à force de descendre, à force de s'autoriser, en fait, à descendre, donc il y a une transparence, il y a une honnêteté des clients, ce qui est très bien. Il y a première question, comment vous faites vis-à-vis des développeurs, parce que faire du timesheet à l'heure, déjà à la journée, demi-journée, franchement, pour relancer, mais du timesheet à l'heure, à faire passer comme message, ça peut être un peu compliqué.
Nous, généralement, c'est en fait, on nous demande surtout, est-ce que tu as travaillé toute la journée sur le projet, ou est-ce que tu as passé d'autres temps sur un autre sujet que le projet. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a été, on a été full sur le projet, c'est-à-dire qu'on a travaillé toute la journée. Généralement, même dans le chat, on le dit directement, c'est Cécile qui reporte nos heures, donc on lui dit directement, hier j'ai travaillé 8 heures sur le projet, c'était bon. Et puis, si j'ai travaillé 2 heures à aider un collègue sur un autre projet, du coup, Cécile va le savoir, elle va pouvoir reporter cette facturation sur l'autre projet. Et enfin, c'est pas, c'est juste de la communication le matin, faut juste, enfin, matin ou l'après-midi.
Et après, nous, quand on fait, quand on fait la facturation, du coup, il y a toujours. Alors, Laetitia, elle est toujours dans la gestion de l'entreprise. Par contre, elle est pas dans, on va dire, dans le micromanagement. Elle gère pas les projets. C'est les facilitatrices et les développeurs qui font la gestion de projet. Mais Laetitia, elle a cet œil extérieur quand elle regarde les factures et qu'elle fait « Dis donc, sur tel projet, en moyenne, les gars, ils ont bossé que 6 heures par jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour, ce mois-ci, quoi ? Est-ce qu'il y a vraiment eu… Voilà. » Et ça peut expliquer sur certaines, semaines, par exemple, ben oui, il a fait que 35 heures sur ce projet, parce que nous, on est aux 39 heures, mais du coup, il a fait 35 heures, donc ça fait quand même 4 heures. Ben ouais, mais parce que justement, souviens-toi… C'est la semaine où il a audité tel projet, où il a préparé tel conf, etc. Donc ça s'explique. Mais elle, elle a l'œil extérieur de la moyenne, là, elle est quand même assez basse sur ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Et en plus, il y a des fois, ça peut expliquer d'autres trucs. Des développeurs qui demandent des breathe times, c'est-à-dire des temps de respiration, soit pendant un projet, soit entre deux projets, pour pouvoir bosser sur d'autres sujets que des projets commerciaux, ou pour bosser sur des projets open source, ou pour bosser sur des confs, ou sur des améliorations, des trucs comme ça. Si on voit qu'il y en a trop, si on voit que les heures, elles sont pas... Bah, ça peut être aussi un indicateur de mal-être. Alors mal-être, j'espère qu'on n'en arrive pas à avoir des positions de mal-être, mais que justement, on a un cadre en place qui fait qu'on le présume, mais ça peut être ça. Mais en tout cas, je dirais qu'économiquement, c'est Laetitia qui est l'œil extérieur et qui du coup le voit et se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Mais jusque-là, ça nous est... Ça n'arrive pas, en fait, je pense. Et c'est Laetitia qui pourrait mieux répondre à cette question parce que c'est elle qui gère économiquement la boîte, mais a priori, ça va.
Après, il n'y a pas de problème.
C'est ça. Il y avait une question là.
Bonjour. Tu as parlé tout à l'heure de mettre un développeur sur un projet qui soit concentré à 100% sur ce projet quand il travaille. Donc ça, je partage. Mais dans la vraie vie, comment vous faites, en fait, parce que, c'est quoi les astuces pour que le
Déjà, il est affecté officiellement que sur un seul projet, donc c'est-à-dire que s'il est dérangé, généralement, c'est par ses collègues de son projet, parce qu'il y a aussi un autre truc en parallèle, c'est qu'on essaye de ne pas mettre un développeur tout seul sur un seul projet. Donc du coup, il y a toujours une équipe d'au moins deux. Donc généralement, quand il est sollicité, c'est plus par son collègue, en fait. Enfin, les deux développeurs vont s'embêter l'un l'autre, en fait, mais pour parler du même projet, donc finalement, ça me déconcentre.
Faire des reviews, faire du pair, faire du... Enfin, pour plein de trucs.
Et après, c'est parce qu'on travaille sur des projets assez longs et qu'on ne fait pas beaucoup de maintenance de site aussi. Donc
alors, on n'en fait pas.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas un client qui dit bah, « Moi, j'ai un bug sur mon site que tu as développé il y a 6 mois, donc il faudrait revenir dedans, etc. » Là, il n'y a pas cette solution-là.
Ouais. Actuellement, par exemple, le seul site qu'on a en maintenance, c'est un site pour une start-up qui, du coup, n'a pas encore constitué son équipe de développeurs en interne et qui, du coup, se base sur KNP pour faire la maintenance en attendant que d'autres projets démarrent derrière. Et clairement, ça nous pose des problèmes de planning parce que justement, on est censé avoir des gars qui sont à temps plein sur un projet et que la TMA, surtout sur des petits projets comme nous, on gère des projets qui ont été développés par 1, 2, 3 développeurs. Donc, il va pas y avoir une masse de correction qui va pouvoir occuper ne serait-ce qu'un développeur à temps plein. Ça, on n'a pas ce type de truc. Et donc, du coup, on fait pas les TMA. Quand on bosse avec des startups, en général, on leur refile le bébé, du coup, parce qu'ils ont constitué une équipe de développeurs en interne et donc on file le bébé à cette équipe-là. Quand on bosse pour des PME ou des choses comme ça, en fait, c'est pareil, on refile le bébé à la personne qui est sur place. Le projet sur lequel t'es, par exemple, c'est une refonte, mais en fait, le gars qui est notre product owner, c'est aussi un développeur. Et donc, c'est lui qui va reprendre la TMA de son propre projet. Donc, on n'a pas de TMA et c'est ça aussi qui nous garantit... qui nous garantit un planning relativement stable. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des incidents, des choses comme ça, qui font qu'on a absolument besoin, même quand on a refilé le bébé à une équipe en interne. Hein. La passation de connaissances n'est pas toujours complète, exhaustive, on va dire. Donc, il y a toujours des coins d'ombre où il y a besoin d'avoir les devs qui ont bossé dessus.
Mais sinon, du coup, je pense que pour... Si on a de la maintenance à faire, je pense que si ce n'est pas des trucs très très urgents à faire dans l'immédiat, je pense que c'est aussi possible de dire on dit il y a une journée dans la semaine où tu vas bosser sur ce projet-là, c'est les fixes de ce projet-là, et puis après tu vas reprendre ton projet standard. Quoi. Oui. Mais c'est centraliser toutes les interventions dans une seule journée pour dire il y a cette seule journée-là qui va être un petit peu comment dire, un petit peu délié. Enfin, ça va être un petit peu...
On essaye de planifier. Ben, justement, dernièrement, sur un projet sur lequel on a cette TMA, justement, et où on se rend compte qu'à chaque fois qu'il a un problème sur son site, c'est au dernier moment. Et donc, ben, on est coincé parce qu'on a, au niveau du planning, on ne peut pas lui trouver un développeur qui ait la connaissance et qui soit capable d'intervenir. Et ben, on s'est mis en tête d'améliorer justement ça, d'améliorer la planification de ce genre d'intervention et de pouvoir savoir, ben, en général, on sait quand il a besoin de nous, c'est quand il intègre des nouvelles choses dans son site. Et du coup, ben, qu'on sache quand est-ce qu'il compte intégrer des nouvelles choses dans son site. Comme ça, on peut planifier un peu plus, surtout sur des équipes qui bossent en sprint, où du coup, ben, on va faire le sprint planning en justement en enlevant cette journée de développement qu'on sait qu'il ne va pas passer sur ce sprint-là, quoi. Est-ce que quelqu'un a... Question ? Exclamation ?
Protestation.
Protestation.
C'est nul, c'est pas de l'agilité.
Non ? Eh bien, merci à tous et du coup, vous pouvez aller prendre une pause, un café, tout ça.